Vous écoutez, on lit pour vous.
Éliminer l'épidémie de VIH d'ici 2030, un objectif de plus en plus difficile, un texte de Philippe de Montigny, publié le 1er décembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Après 4 décennies de service auprès des personnes séropositives, une organisation torontoise fermera ses portes l'an prochain, faute de demande et de financement. Malgré les progrès en matière de dépistage, de traitement et de prévention, la lutte contre le VIH au Canada et ailleurs dans le monde est loin d'être terminée. Fondée en 1983, dans un contexte bien différent, l'AIDS Committee of Toronto, ACT, a décidé de cesser ses activités en mars prochain. Au cours des 10 dernières années, nous avons constaté une baisse notable du nombre d'usagers, affirme le directeur général Ryan Lisk. Leurs besoins ayant évolué, ils n'ont plus autant besoin de nous. L'offre étendue de médicaments de prévention, ou PrEP, avec désormais des options injectables, permet de limiter les nouvelles infections au sein des groupes les plus à risque, en améliorant notamment l'adhésion. C'est plus facile de recevoir des injections 6 fois par année que de prendre une pilule chaque jour, affirme l'infectiologue Daryl Tan de l'hôpital St. Michael's de Toronto. Qu'est-ce que le VIH? Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, s'attaque au système immunitaire. Il s'agit d'une maladie chronique, toujours incurable de nos jours, et qui, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut évoluer en syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, et même entraîner la mort. Par contre, avec un traitement et des suivis médicaux, les personnes séropositives peuvent vivre aussi longtemps et en aussi bonne santé que le reste de la population. La fermeture imminente de l'ACT s'inscrit aussi dans un contexte de problèmes financiers. Cet organisme affiche un déficit budgétaire depuis plus de 5 ans, variant d'environ 250 000 à 800 000 $, précise M. Lisk. Il souligne que les dons ont baissé de façon notable. L'organisation en avait récolté pour 3,6 millions de dollars en 2003, alors qu'elle estime avoir amassé moins de 300 000 $ cette année. Le financement fédéral alloué dans le domaine du VIH n'a presque pas bougé en une décennie, ajoute le directeur général, qui espère que le retrait de l'ACT permettra d'augmenter les subventions accordées à d'autres organismes plus spécialisés. Benjamin Sourisseau, directeur général d'Action positive, le seul organisme francophone qui se voue à la lutte contre le VIH à Toronto et dans le sud de l'Ontario, y voit la perte d'un partenaire important. C'est difficile de perdre un joueur de poids, parce que, quand on a des relations aussi fortes, ça permet d'aller parler aux bailleurs de fonds ensemble, d'aller parler au gouvernement ensemble, dit-il. Ça diminue notre voix, en fait. Cible ratée. Il y a 9 ans, le Canada s'est engagé à mettre fin au sida comme menace pour la santé publique d'ici 2030, un but commun avancé par l'ONU. Pour y arriver, les pays se sont donnés pour mission d'atteindre d'ici 2025 les objectifs 95-95-95, c'est-à-dire ceux-ci, que 95% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut, que 95% d'entre elles reçoivent un traitement antirétroviral, que 95% des personnes qui suivent un traitement aient une charge virale indétectable. C'est important, parce que si quelqu'un a une charge virale indétectable, même s'il est séropositif, il ne peut pas transmettre le virus à d'autres personnes, affirme Isaac Bogosh, infectiologue du Réseau universitaire de santé UHN de Toronto. Le Canada serait en voie de rater certaines de ses cibles, car il se situerait autour des 89, 85, 95, selon les plus récentes données disponibles. Il y a toujours place à amélioration. Mais si on compare le Canada aux autres pays à revenus élevés, nous faisons un travail remarquable, dit-il. Le Canada s'en sort plutôt bien, mais nous ne vivons pas dans une bulle. Le nombre de nouveaux cas de VIH au pays a bondi de 35 % de 2022 à 2023, une période marquée par une forte vague d'immigration, souligne l'infectiologue. Ces données ne reflètent donc pas nécessairement des infections contractées au Canada. Bon nombre de ces infections ont été importées, explique Isaac Bogosh, sans porter de jugement. Il souligne aussi que le financement mondial des programmes de lutte contre le VIH a été décimé cette année, en grande partie en raison du retrait de l'administration Trump. L'ONU-SIDA, dont la moitié du financement dépendait des États-Unis, a sonné l'alarme la semaine dernière. La riposte mondiale au VIH subit actuellement son revers le plus important depuis des décennies, a souligné sa directrice générale, Winnie Byanyima. L'infectiologue Daryl Tan espère que cette situation motivera d'autres pays, dont le Canada, à bonifier leurs contributions. Il tente de rester optimiste, mais il estime que l'atteinte des cibles de l'ONU d'ici 2030 est de moins en moins probable. C'était éliminer l'épidémie de VIH d'ici 2030, un objectif de plus en plus difficile, un texte de Philippe de Montigny, publié le 1er décembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Grâce au cirque social en réadaptation, les jeunes en situation de handicap gagnent autonomie et estime de soi. Un texte de Sandra Doyon, conseillère en communication, responsable de la programmation des activités scientifiques de l'IURDPM, Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Depuis plus de 15 ans, le programme de cirque social en réadaptation du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, CCSMTL, offre à des jeunes en situation de handicap, en transition vers la vie active, une expérience artistique transformatrice à travers la pratique des arts du cirque. Ce programme novateur est une intervention clinique inspirée de l'approche pédagogique en cirque social proposée par le Cirque du Soleil à travers son programme « Cirque du Monde », devenu depuis « Cirque hors piste ». Frédéric Loisel, ergothérapeute, et l'équipe du programme TEVA, Transition de l'école vers la vie active, ont adapté cette approche pédagogique pour le contexte de la réadaptation en déficience physique. L'intervention vise à favoriser le passage à la vie active des jeunes adultes qui vivent avec des déficiences physiques. Chaque cohorte est encadrée par un duo formé d'un artiste du cirque et d'un intervenant psychosocial qui accompagne les jeunes dans un parcours de 150 heures répartis entre ateliers et sorties collectives. Jonglage, acrobatie, pyramides humaines et création de spectacles deviennent alors des leviers d'intervention puissants. Ces activités permettent aux jeunes de redécouvrir leur corps autrement, de développer leur confiance, de s'intégrer à une équipe et de se responsabiliser dans un cadre stimulant. Impact sur les jeunes. une étude a été menée en partenariat avec une équipe scientifique de l'Institut universitaire sur la réadaptation aux déficiences physiques de Montréal, IURDPM. Les impacts du cirque social en réadaptation sont réels. Estime de soi, autonomie, insertion sociale et sentiment d'appartenance ressortent comme bénéfices durables. Une évaluation clinique récente vient confirmer ces effets positifs. Au fil des années, le programme a d'ailleurs reçu plusieurs prix d'excellence et d'innovation au Québec et au Canada. Transférer les acquis, le guide du cirque social en réadaptation. Forte de ses apprentissages, l'équipe de l'IURDPM a récemment publié, en collaboration avec Frédéric Loisel et plusieurs partenaires, un guide de déploiement du cirque social en réadaptation, fruit de 16 ans de pratique sur le terrain. Ce guide gratuit permet à d'autres milieux cliniques ou communautaires de s'approprier l'approche, d'en comprendre les fondements et d'envisager leur propre implantation. Une conférence de lancement a également été offerte le 26 mars dernier. Une invitation à penser la réadaptation autrement, en équilibre, en mouvement et en collaboration. À propos de l'IURDPM, l'Institut universitaire sur la réadaptation aux déficiences physiques de Montréal est reconnu pour son leadership en innovation, en recherche appliquée et en transfert des connaissances. En soutenant la création du guide de déploiement du cirque social, l'IURDPM contribue à faire rayonner les pratiques novatrices issues du terrain dans une perspective d'amélioration continue des services offerts aux personnes vivant avec une déficience physique. C'était, grâce au cirque social en réadaptation, les jeunes en situation de handicap gagnent autonomie et estime de soi. Un texte de Sandra Doyon, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167, de la revue Paraquad. Le FICAM, Festival international du cinéma adapté de Montréal, ouvre les salles à toutes les personnes en situation de handicap. Un texte d'Aline Vancompernol, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167, de la revue Paraquad. Le FICAM a été lancé en 2022. Le Festival international du cinéma adapté de Montréal est né et continue de grandir de la seule volonté d'un homme, Miguel Sorto. Miguel n'est pas lui-même en situation de handicap, mais il a œuvré comme coordonnateur sportif au CIVA, le Centre d'intégration à la vie active. Il est en même temps réalisateur indépendant et a tourné deux films en 2020, illustrant le parcours sportif des jeunes qu'il a accompagnés. Mais quand est venu le temps de projeter ses films aux jeunes sportifs en fauteuil, Miguel a constaté qu'il était impossible de les inclure en leur ouvrant la salle de projection. Il n'y a pas de salle de cinéma accessible à plusieurs fauteuils, ni à Montréal, ni dans le reste du Québec. Le FICAM en a fait l'expérience durant ses deux premières années d'existence. Car bien sûr, pour exister et rendre concret le projet d'amener le cinéma aux personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, il faut disposer d'une structure qui permette de le faire. C'est après plusieurs recherches et sollicitations que Miguel Sorto, porteur du projet du FICAM et réalisateur accompagnateur dans le programme de micro-documentaire à l'INIS, Institut national de l'image et du son, en collaboration avec Ciné-Quartier, a trouvé la salle de la Maison de la culture du plateau Mont-Royal. Citation : Lors de la première édition du FICAM, il a fallu enlever les estrades pour permettre l'accès à 15 fauteuils. Nous avions organisé deux séances où nous avions notamment projeté des capsules vidéo du 75e anniversaire de Mémo Québec. Fin de citation, se souvient Miguel. Gala, tapis rouge et film sur le handicap. Le principe du festival est le même que pour les autres. Il présente plusieurs films qu'il met en compétition et qui sont soumis au vote du public à la fin de la projection. La différence est que les films ont pour objectif d'être projetés à des personnes en situation de handicap, mais surtout, pour être sélectionnés, ils doivent avoir pour sujet principal des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, ou doivent faire jouer des acteurs en situation de handicap ou encore avoir des membres de l'équipe de tournage qui ont un handicap, comme le réalisateur, par exemple. Ces films doivent aussi être des courts-métrages d'une durée de 60 minutes maximum. Pour le reste, le festival joue le jeu des grands avec un tapis rouge, un gala et un trophée offert aux gagnants. Ce que le créateur du FICAM aime particulièrement de l'expérience, c'est la beauté de la discussion à la fin de la projection. Citation. Je suis content de voir l'impact que nous avons sur les spectateurs. Ils sont ravis d'avoir enfin un espace où ils peuvent se rencontrer en groupe pour voir un film. En plus, les films parlent de sujets qui les concernent. Ils voient des personnes qui leur ressemblent à l'écran, mais aussi d'autres réalités. Nous avons, par exemple, projeté un film intitulé « Femmes sourdes, dites-moi », un chef-d'œuvre qui parle de l'histoire de l'Institut des personnes sourdes du Québec qui était au coin de Saint-Denis et Roy à Montréal. On se rend compte que cet endroit a touché plein de gens. Les cinéphiles font de belles découvertes avec le FICAM. Fin de citation, raconte Miguel, féru de cinéma. Des partenariats avec d'autres festivals. Les commentaires positifs et la participation croissante, 300 personnes l'an passé, motivent Miguel Sorto à faire grandir le festival et à créer de nouveaux partenariats comme avec l'ONF, Office national du film, pour l'audiodescription, avec le FIFEC, Festival international du film ethnographique du Québec, pour la projection de films aux personnes non-voyantes, ou encore avec le FNC, Festival du nouveau cinéma, pour une coprojection en octobre cette année. Miguel Sorto a créé le festival de toutes pièces et porte encore aujourd'hui la majeure partie du projet. Une idée ambitieuse qui connaît déjà un succès dans d'autres pays en Europe, comme la France, l'Espagne, le Portugal, mais aussi l'Australie, qui récompense, elle, le film gagnant de son festival par la modique somme de 100 000 $. Citation. C'est le rêve que j'ai pour le FICAM, de pouvoir donner des prix et de développer une vidéothèque du festival en ligne comme ils le font. Fin de citation, espère Miguel Sorto. Il aimerait également que son festival puisse accompagner les projets de jeunes scénaristes et réalisateurs, comme le font les autres festivals, pour favoriser la qualité de la production. Pour l'avenir. Côté amélioration à venir, Miguel Sorto s'est rendu compte que rendre le cinéma accessible à toutes les personnes en situation de handicap reste un vrai défi. Impossible de montrer un film à la fois à des personnes malentendantes et non-voyantes, car les aménagements nécessaires sont contradictoires. Une projection uniquement destinée aux personnes non-voyantes est désormais prévue. Après 2 années d'existence, le FICAM va pouvoir enregistrer ses premiers états financiers afin de chercher à obtenir de plus importantes subventions au niveau provincial et fédéral et espérer se développer encore davantage. Avec l'aide de Kéroul, le festival espère aussi devenir itinérant à travers la province et ainsi créer la route du cinéma accessible à travers la province. Le prochain Festival international du cinéma adapté de Montréal, FICAM, aura lieu du 21 au 25 octobre dans le quartier des spectacles au MEM, Centre de mémoire montréalaise, 1210 Boulevard Saint-Laurent. En vedette et en collaboration avec Mémo Québec, le court-métrage d'Annie Leclerc, Les eaux calmes. Le festival est gratuit sur inscription. C'était le FICAM, Festival international du cinéma adapté de Montréal, ouvre les salles à toutes les personnes en situation de handicap. Un texte d'Aline Vancompernol, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167, de la revue Paraquad.
À l'école du Vallon, un accès au plein air qui fait rêver tout le monde. Un texte d'Alexis Riopel paru le 2 décembre 2025 dans Le Devoir. D'abord, les enfants chaussent leurs skis, puis s'élancent pour quelques tours devant l'école en encerclant le gros bouleau blanc. C'est encore novembre, mais à Petit-Saguenay, au 48e degré nord, un parka neigeux enveloppe le village. Je vous laisse libre pendant 10 minutes pour vous réchauffer, lance Jean-François Hainaut à son groupe de 3e et 4e année. À ce bal d'équilibrisme, certains filent, d'autres plongent. Nous sommes à l'école du Vallon, petit établissement public qui compte 54 élèves. Après avoir connu une époque difficile, au début des années 2000, en raison du vieillissement du village, l'école vit maintenant un nouvel essor. Les familles sont de retour, l'école est fraîchement rénovée et on y offre un programme éducatif axé sur la nature qui fait le bonheur de tous. Désormais, chaque enseignant titulaire doit passer au moins 2 heures par semaine dehors avec son groupe. Ces moments servent à bouger, mais aussi à enseigner le français, les mathématiques, les sciences, l'anglais. À mon avis, le dehors est un lieu d'enseignement formidable, explique M. Hainaut, qui intègre la nature dans sa pratique depuis le début de sa carrière. Des mathématiques au cimetière. Après les 10 minutes d'échauffement, l'enseignant réunit ses élèves en ski-raquette devant lui. Les livres qu'on lit nous définissent, mais aussi le territoire qu'on habite, clame-t-il, en sortant un bouquin de son sac à dos. Une édition jeunesse du classique Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. Il saisit aussi une feuille d'arbre ambrée et sinueuse. À quelle espèce appartient-elle? Toutes les mains se lèvent d'un seul coup, puis on entend « chêne rouge ». On demande aux enfants ce qui, de l'enseignement en nature, les a marqués. « J'aime aller au quai pour la beauté du paysage », répond Romy. On a vu les plants de bleuets qui deviennent rouges, ajoute Roméo. L'an dernier, on est allé voir le lever du soleil au Petit Cran, se rappelle un camarade qui avait visiblement adoré cette randonnée jusqu'au belvédère rocheux offrant une vue imprenable sur le fjord du Saguenay. Ici, on est entouré de montagnes et de forêts, ça fait toute la différence. On a le milieu idéal et on a les outils. On peut facilement s'en servir, ajoute Ariane Doyon, une autre enseignante de l'école du Vallon. Quelques exemples. En sciences, on bâtit un hôtel à insectes. En anglais, on jase autour d'un feu de camp. En maths, on se rend au cimetière pour faire des soustractions avec les dates gravées sur les pierres tombales. Les enfants, endurcis, se précipitent dehors, peu importe la météo. « Je n'ai jamais vu ça avant », s'exclame Marie-Ève Bellé, la directrice, qui salue le vif soutien du Centre de service scolaire des Rives du Saguenay. « À l'Halloween, raconte-t-elle, les élèves devaient passer l'après-midi dehors, mais il pleuvait à verse. De quoi gâcher les costumes. Les enfants voulaient vraiment aller dehors, alors ils ont trouvé une solution. » Prendre une grosse bâche et se déplacer en formation tortue. M. Hainaut s'efforce de trouver des activités extérieures auxquelles il peut attacher les apprentissages. Ses élèves, par exemple, écrivent des récits d'aventure sur leur sortie. En outre, ils apprennent à identifier les plantes. Souvent, ils finissent par en savoir plus que leurs propres parents, dit-il en s'esclaffant. Et passer du temps dehors permet aussi de profiter de périodes méditatives de 5 minutes pour écouter, regarder, réfléchir. On veut intégrer de saines habitudes de vie, même sur le plan de la pensée. Pour M. Hainaut, un autre aspect important de l'enseignement en plein air est l'initiation au transport actif. Puisque le village de Petit-Saguenay est très compact, les élèves se rendent un peu partout à pied, à vélo, comme au quai sur le fjord à 3,5 km, en ski ou en trottinette des neiges. Même en milieu rural, c'est possible de prendre cette habitude-là, défend-il. C'est d'ailleurs en trottinette des neiges que les élèves se sont rendus à l'hôtel de ville, l'hiver dernier, pour déposer les résultats de leur scrutin visant à choisir un projet pour le budget participatif. Ils ont voté pour un parcours d'hébertisme. C'était tellement cute, raconte Juliette Charpentier, la conseillère en développement durable et participatif à Petit-Saguenay. Ces enfants-là sont tellement allumés, tellement soucieux de l'environnement, ce sont eux qui vont protéger la planète du futur, pense-t-elle. Une école, wow! Quand les élèves du Vallon sont à l'intérieur, ils ne sont pas à plaindre non plus. L'école, rénovée en 2020 au coût de 3,5 millions de dollars, offre un environnement décloisonné abondamment fenestré. L'ossature du bâtiment est toute faite de bois. La bibliothèque est éclatée, c'est-à-dire qu'elle est répartie dans tous les corridors. Je pense que c'est une très grande réussite. L'école est vraiment wow, dit l'architecte Catherine Breton, responsable des bâtiments au Centre des services scolaires. Inspiré par les labs-écoles, l'établissement comporte aussi une cuisine. Chaque classe y participe à une dizaine d'ateliers d'alimentation durable durant l'année. Au printemps, les élèves font des pousses de légumes, raconte Mme Belli. On les donne à des maraîchers qui s'en occupent durant l'été. À l'automne, lors d'une sortie, les élèves vont cueillir les légumes, puis ils s'en servent pour cuisiner et enfin ils mangent le résultat. L'école n'est pas un bâtiment éco-énergétique, sa salle mécanique n'a pas été modernisée en 2020, mais elle intègre une ventilation par déplacement d'air, un éclairage efficace et même, sur son toit, 66 panneaux solaires. Madame Breton fait toutefois remarquer que la production énergétique de ces panneaux en hiver est très faible. Alors que le soleil de l'après-midi décline, M. Hainaut interroge sa classe sur Walden, que le groupe a lu attentivement plus tôt cet automne. Quel verbe revenait continuellement dans l'œuvre? Les hypothèses fusent. Savoir? Écrire? Penser? Marcher? C'est un verbe un peu spécial, dit-il pour les encourager. Simplifier. Rendre les choses plus simples, s'exclame-t-il, avant que les enfants aillent faire un dernier tour de piste, puis se déchaussent. Durant notre après-midi à l'école du Vallon, étonnamment personne n'a mentionné les écoles finlandaises, connues pour offrir une belle place au plein air dans le quotidien des enfants et qui font rêver tout le monde. Est-ce parce qu'on serait en train de voir le début d'un modèle bien de chez nous, celui d'une école québécoise ancrée dans la nature, un modèle qui fait rêver lui aussi? C'était « À l'école du Vallon, un accès au plein air qui fait rêver tout le monde », un texte d'Alexis Riopel paru le 2 décembre 2025 dans Le Devoir.